Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Nouveau numéro consacré une nouvelle fois au TTIP, le TTIP, le Transatlantic Trade and Investment Partnership, avec mon plus bel accent anglais. C'est le TAFTA, c'est ces négociations autour d'un accord de libre-échange. Mais la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque global de transparence autour de ce traité. Et donc on va se demander si il faudrait plus de transparence. Mais d'un autre côté, c'est mieux pour l'opinion publique parce que moins il y a de transparence, plus il y a de fantasmes. D'un autre côté, dans une négociation, surtout avec les Américains, si on montre notre jeu, est-ce que c'est pas perdu d'avance? Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Vous êtes eurodéputé de la famille ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Vous êtes vice-président.
Centriste, ça veut dire.
En gros, vous êtes centriste. Vous êtes vice-président du Modem. Vous déjà, sur ce TTIP, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Écoutez, au début, ça pouvait être une bonne chose. Maintenant, je pense qu'on est tellement enlisé de part et d'autre des côtés de l'Atlantique que je crois que ce TTIP, je ne veux pas vous casser l'émission tout de suite, mais je ne crois pas qu'il va voir le jour, en tout cas dans la forme dont on parle depuis maintenant de nombreux mois.
En tout cas, c'est la posture de la France. Ce qui va être intéressant dans cette émission, c'est qu'il existe. On avait abordé cette question il y a quelques mois dans le cadre d'un autre accord international en négociation, le TISA, sur les échanges, sur les services. Eh bien, on avait parlé de cette salle secrète au Parlement européen dans laquelle on peut aller consulter, les eurodéputés peuvent aller consulter les documents de négociation. Eh bien, nous sommes allés voir cette salle secrète et on a vu quelles étaient les conditions. Bonjour Laura Werecke. Bonjour. Vous êtes de l'ONG Corporate Europe Observatory. Vous défendez nos intérêts, vous êtes pour la transparence, vous mettez la Commission, le Parlement, toutes les institutions devant leurs responsabilités. Est-ce que vous considérez que la Commission européenne, qui est en charge des négociations côté européen, est suffisamment transparente?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et un exemple, par exemple, c'est la correspondance qu'on a demandé entre l'industrie du tabac et la Direction générale du commerce.
D'accord.
Et les résultats qu'on a eus, c'est un courrier où 90% du texte est noirci.
Ça, c'est édifiant. On va y revenir. Il y a eu effectivement des échanges entre British American Tobacco et la Commission européenne. Vous en avez eu connaissance. Vous avez demandé à la Commission de vous communiquer les documents. Et voici ce que vous avez reçu. En gros, ils ont masqué les éléments considérés comme sensibles. Là, on ne le voit pas à la radio, évidemment. Mais en gros, tout est masqué. Sur les 5 pages de documents, il y a la date. Et encore, même pas sûr qu'il y ait la date. Il y a yours sincerely. Donc, il y a la formule de politesse, mais tout a été masqué. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour Yann Anthony.
Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de transparence autour de ces négociations pour qu'elles puissent voir arriver un résultat?
C'est l'accord aujourd'hui négocié qui n'a jamais été aussi transparent de la part de la Commission européenne. Et donc on a un peu cette ambiguïté, c'est que c'est plus transparent que jamais, et en même temps c'est justement plus discuté par les opinions publiques, par la société civile, ici aussi au Parlement européen. Et ça fait en fait un effet un peu inverse de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, où on avait un accord qui arrivait en bloc au sein des États membres, ou des parlements, ou du Parlement européen, et là on avait la possibilité de le rejeter, ce qui s'est passé avec ACTA en 2012. Et ici, c'est au fur et à mesure des négociations, on a déjà envie de rejeter quelque chose qui n'est pas finalisé.
C'est ça, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, et puis il y a des fuites, et puis on se dit, c'est terrible, il y avait des choses qu'on nous cachait, etc. Alors que du côté de la Commission européenne, tout le monde dit, mais non, ce sont des tempêtes dans un verre d'eau, etc. Bon, le TTIP, ces accords, ces négociations pour des accords internationaux, la transparence, oui, mais jusqu'où? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500ME. Alors, ici au Parlement européen et de manière générale dans toutes les capitales, auprès de toutes les institutions qui ont un droit de regard sur ces négociations, il existe une salle de lecture. Les documents sur du TTIP, les documents de négociation, sont dans une salle, une sorte de salle bunkerisée. Les eurodéputés y ont accès, mais ils se retrouvent avec un document en anglais. À la porte d'entrée, ils doivent laisser leur téléphone portable. Éric Andrieux, l'eurodéputé socialiste, nous y a mené. Le problème, c'est qu'il a même pas pu y rentrer avec son stylo, parce que la fonctionnaire en charge de cette salle lui a pris. Il pouvait pas avoir non plus de carnet de notes. Il a dû signer une note de sécurité s'engageant à ne révéler aucune information qu'il aura lue dans ce document. Voilà, nous avons interviewé donc Éric Andrieux, député socialiste, à la sortie de cette salle, et voilà ce qu'il avait à nous dire.
Un élément qui est assez surprenant, là aussi en termes de démocratie, c'est qu'évidemment tous les textes sont en anglais. Je ne suis pas convaincu que les 751 députés qui siègent au Parlement européen maîtrisent suffisamment cette belle langue pour pouvoir bien appréhender le contenu technique, puisqu'il y a un langage très technique, hein, et qu'effectivement ça peut aussi donc être un élément de discussion sur la capacité justement d'utiliser et d'œuvrer sur ces documents-là.
Voilà, sujet de discussion sur la capacité d'utiliser et d'œuvrer sur ces documents-là, nous dit l'eurodéputé socialiste à l'accent qui chante, Éric Andrieux. C'est vrai, ça pose question quand même,
oui,
Robert
attendez,
Rochefort.
Attendez, la question de la transparence et de l'accès aux documents n'est pas indépendante du sujet même du document. Je voudrais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la COP21, dont on a beaucoup parlé et on a considéré que la France avait réussi la COP21. Est-ce que vous savez, pour les négociations de la COP21, il y a eu un secret absolu? Aucun document n'a été rendu public et aucune ONG n'a demandé l'accès aux documents. Donc, ça veut dire que actuellement cette revendication qu'on a de transparence.
Et qu'est-ce que vous sous-entendez ?
C'est
parce que c'est des négociations à la demande des ONG souvent.
Ce que je veux dire, c'est que la question de la transparence n'existe pas dans l'absolu, parce que évidemment la transparence absolue n'est pas possible. Parce que si vous achetez d'occasion une voiture, il y a un moment donné, vous n'êtes pas dans la transparence. Vous êtes entre deux, entre le vendeur et l'acheteur. Donc la quête de transparence renvoie à quelque chose qui est qu'est-ce qu'on veut avoir. Et en fait, vous voyez bien que derrière la question de la transparence sur le TTIP, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du TTIP. Et l'un des problèmes que nous avons sur le TTIP, c'est que les négociateurs, en particulier les négociateurs européens, ne savent pas ce qu'ils veulent faire du TTIP. Parce qu'en amont, en Europe, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons faire du TTIP. Et le deuxième exemple que je voulais citer, c'est que je voulais rebondir sur la question du tabac. Là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose que moi, en tant que député européen, en tout cas mobilisé dans la lutte contre le tabagisme, je dénonce, c'est-à-dire le type de tractation à l'amiable entre les industries du tabac et un certain nombre de puissances politiques, comme ça a été fait aux États-Unis et comme ça a été tenté en Europe, et comme d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, ça c'est quelque chose qu'on a complètement dénoncé. Et finalement, si le document que vous avez montré tout à l'heure, c'est une caricature, il n'y a que du noir, je peux vous dire qu'il n'y a que du noir, parce que de toute façon, comme c'est un document qui est un document qui se veut aller au-delà de la question des tribunaux et qui veut être une sorte, allez, presque, on va dire, d'accord avec une mafia, si vous voulez, d'une certaine façon, on ne peut pas montrer ce document-là. Voilà ce que je veux dire. Alors, en revanche, et là je crois qu'il faut le dire, c'est qu'entre le début sur le TTIP et maintenant, il y a quand même eu des grands efforts à la suite de notre demande, à la suite des demandes des ONG, pour arriver à un certain niveau de transparence, mais qui est bancal, qui est un compromis. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas allé dans cette salle. Vous savez pourquoi je ne suis pas allé dans cette salle? Parce qu'une fois que vous êtes dans la salle, vous ne découvrez rien en réalité. Vous découvrez quoi?
Quand vous êtes dans cette salle, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas être accompagné d'un conseiller.
Voilà.
Tout seul, non. Vous avez le fonctionnaire qui vous surveille.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est absurde
que
de dire.
C'est pas des conditions de travail.
Mais non, mais parce que nous ne sommes pas censés travailler sur la négociation. C'est bien là où il y a bien une difficulté. En fait, ce qu'il aurait fallu que nous fassions.
Attendez.
Sur un traité aussi important.
Ensuite, on va laisser parler aussi les autres autour de la table.
Sur un traité aussi important que le TTIP, ce qu'il faudrait se dire, c'est nous avons des rendez-vous d'étape, et dans ces rendez-vous d'étape, il y a une obligation de faire un compte-rendu effectivement extrêmement complet de la part des négociateurs vis-à-vis de nous. Or ça n'existe pas. Mais avoir accès à des papiers comme ça, c'est une sorte de quête impossible. Et moi,
Charles,
je trouve un
Charles,
peu à côté
vous êtes
de la plaque.
Oui, je partage ce point de vue. En fait, il y a un cadre de négociation qui a déjà été accepté par les États. Donc, ils ont un canevas et doivent essayer, les négociateurs doivent utiliser ce canevas.
Donc, c'est la Commission européenne qui négocie.
Oui, parce que c'est sa compétence. Donc, vous avez en fait une dérogation de pouvoir de chaque capital qui est transmet à la Commission et puis votre mandat, c'est de négocier en nom collectif et à la fin du processus, une fois qu'il y a un accord avec l'autre partie, les États-Unis, ça revient en fonction. Alors, c'est un accord mixte, donc ça veut dire que ça a passé devant les parlements nationaux qui auront le choix de dire oui ou non et de lever le pouce.
Sauf que les Néerlandais, ils réclament un référendum sur la question.
La façon dont chaque État va faire, c'est propre. On le voit par exemple sur le CETA, sur l'accord avec le Canada, où vous avez la Wallonie qui représente 3,5 millions d'habitants sur 500 millions, ça doit faire moins de 0,5% et qui met une sorte de veto et qui bloque la Belgique pour pouvoir soutenir cet accord. Donc ça pose aussi des questions de légitimité démocratique et on pourrait le prendre de l'autre côté.
C'est le Parlement wallon qui demande au gouvernement wallon de retirer au gouvernement fédéral la capacité. Enfin,
voilà. Donc, je vois que vous êtes en Belgique depuis très longtemps et que vous avez très bien compris la problématique.
À peu près.
Ce qui fait que sur la question de la transparence, il faut voir, et je rebondis sur ce que vous disiez, en effet, quelle est la finalité de la transparence. Et ceux qui poussent à plus de transparence, presque au maximum, à un moment on a envie que les négociateurs soient en streaming en direct sur Internet pour comprendre ce qu'ils font, alors que personne ne comprend exactement si vous avez le texte final ou même le texte intermédiaire. C'est assez technique, donc pour pouvoir le comprendre, il faut avoir une vraie capacité qui n'est pas celle du citoyen lambda, il faut être honnête et pouvoir le dire. Et la transparence est un moyen en fait pour faire capoter TTIP. Et ceux qui vont pousser d'un point de vue idéologique, plutôt l'extrême gauche ou la gauche un peu dure, n'ont pas une vision sectorielle, une vision pragmatique. Ils prennent en fait la transparence comme un moyen pour dire, regardez, c'est pas transparent, c'est caché.
Je crois qu'on va donner la parole à Laura Vérec.
Et qui, à ce moment-là, essaye juste de pouvoir faire capoter un accord plus global, alors qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, il n'y a pas d'accord.
Laura.
Oui, alors déjà, un point par rapport aux députés européens. Vous avez voté une résolution en juillet 2015 qui donnait malgré tout votre avis à la Commission.
Oui.
Donc vous pourriez aller dans la salle de lecture pour vérifier que votre avis est respecté. Et on le voit par exemple sur la coopération réglementaire où vous aviez demandé l'exclusion des produits chimiques. C'est la résolution de juillet 2015 du Parlement. Et dans les textes qu'on a depuis peu en ligne, on voit très bien que la directive REACH, la directive sur les produits chimiques, n'est pas exclue de cette coopération réglementaire.
Ce que vous dites, ça démontre rien parce que des négociations, ça se fait par ouverture de chapitres successifs. Et le fait, par exemple, que ce que vous dites n'est pas actuellement dans les textes, ne veut pas dire que ça ne sera pas dans les textes. Ça veut dire que le dossier n'a pas été ouvert. Il y a, au niveau de Bruxelles, vous avez un responsable des négociations pour le TTIP et il y a une quarantaine de collaborateurs sous ses ordres qui sont chacun responsables d'un chapitre. Mais tous les chapitres ne sont pas ouverts en même temps. Donc, si vous voulez, à un instant T, le fait que le dossier ne soit pas ouvert ne signifie pas que le dossier ne sera pas ouvert. Moi, je suis par contre exigeant pour que ce que l'on ait demandé soit appliqué. Mais le fait que vous ne le voyez pas aujourd'hui ne veut pas dire que ce ne sera pas appliqué. Mais par ailleurs, et là je rejoins ce que vous avez dit il y a un instant, vous comprenez la difficulté du négociateur européen. Prenons un exemple sur lequel on n'est pas d'accord avec les Américains, qui est l'exemple sur les appellations d'origine des produits alimentaires. Bon, par exemple, ou même la question du champagne. On aimerait bien que les Américains arrêtent de faire du champagne alors que nous avons en France et en Europe une appellation champagne. Bien. En fait, sur ces questions-là, le négociateur européen, la difficulté, c'est qu'il n'a pas un mandat clair de l'ensemble de la Commission européenne et des pays. Parce que en Europe, il y a des pays qui défendent les appellations d'origine à fond, et puis il y a des pays qui sont beaucoup plus libéraux et qui ne les défendent pas. Donc, aujourd'hui, oui, moi je le dis franchement, la négociation, elle est mal barrée, comme on dit. Elle est mal barrée, et la question qui va se poser, au-delà du thème même de cette émission, c'est comment on fait pour sortir de la difficulté dans laquelle on est. Parce qu'il va bien falloir en sortir.
Ce qui est saisissant tout de même, c'est quand vous, Laura Vérec, avez saisi la Commission européenne pour dire, dans le cas de ce document et de cet échange de lettres, on ne sait pas dans quelle mesure c'était fondamental entre British American Tobacco et la Commission européenne, et que la Commission a donc transmis ce document, c'est une farce totalement masquée. Vous avez écrit à Catherine Day, la secrétaire générale de la Commission européenne, en lui disant qu'il y avait un problème et qu'il fallait quand même, dans l'intérêt général, être un petit peu plus transparent. Je vais lire la réponse, et là je cite Catherine Day, que vous avez reçue. « Alors que je reconnais entièrement l'importance de la transparence pour permettre aux citoyens de suivre les négociations commerciales, je cite Catherine Day, je suis d'avis que l'intérêt général ne prend pas le dessus sur l'intérêt de protéger les relations internationales de la Commission et le processus de prise de décision, ni les intérêts commerciaux des entreprises en question. Dans ce cas, voilà, l'intérêt général ne prend pas le dessus. Je sens que Robert Rochefort trépigne. On en parle juste après un court message publicitaire, parce que ça, les ressources publicitaires, ça prend le dessus.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Oui, depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous parlons aujourd'hui globalement du secret qui entoure les négociations autour des traités internationaux comme le TTIP, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, ou encore le TISA, l'accord international pour, alors certains diront, la libéralisation des échanges de services. Nous sommes ici avec Robert Rochefort, vice-président du Modem, eurodéputé donc de la famille ALDE, Alliance des libéraux et démocrates européens. Nous sommes avec Laura Verrecke de l'ONG Corporate Europe Observatory. Elle surveille et elle veille à la bonne transparence sur toutes ces négociations ici à Bruxelles. Et puis Charles de Marcy, le brillant Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Nous discutions de cette salle. On est allé voir du côté de cette salle secrète du Parlement européen. On s'était d'ailleurs fait taper sur les doigts pour être allé filmer là-bas. Ensuite, on a vu ce document, la transparence de la Commission européenne, où en gros, quand ils vous donnent un document à une ONG, eh bien, ils masquent tout, et la secrétaire générale, l'ancienne secrétaire générale de la Commission, qui dit, écoutez, j'ai pas à tout vous montrer parce que l'intérêt général ne l'emporte pas sur les relations de la Commission européenne avec ses partenaires ou sur le business. Laura.
Et c'est ce qui nous fait peur dans ces négociations, c'est le manque d'intérêt pour l'intérêt général justement de ces négociateurs qui n'ont pas été élus, à la différence de la COP21 que vous mentionnez, où là on avait affaire avec des gouvernements élus.
Oui, vous voyez bien que c'est bien une question d'objectifs, de ce qu'on veut faire et d'implication. Et vous avez tout à fait raison. Je trouve que sur le TTIP, du côté européen, le fait qu'effectivement on mandate purement des fonctionnaires, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais qui sont des techniciens, et effectivement, ils ne sont pas sur la question politique, et la question politique, où là, il y a une appréciation pour savoir qu'est-ce qui doit être rendu public, à quel moment et comment. Mais par rapport à la réponse que vous avez eue, évidemment, c'est scandaleux. L'intérêt général ne peut pas être mis de côté par rapport à des intérêts de négociation, sauf que, évidemment, il faut tout de même bien rappeler que lorsque la secrétaire générale de la Commission européenne vous répond ça, elle sait quand même qu'elle n'a pas le dernier mot, puisque le dernier mot, c'est quand même les politiques qui l'ont. C'est les politiques qui décideront. Et c'est pour ça que,
mais
à la fois, on a raison...
Juste pour dire oui ou non. Alors, c'est déjà bien, mais juste pour dire oui ou non.
Oui,
pas pour amender le texte.
Oui, bien entendu. Mais il y a tellement... Vous savez, il va y avoir quoi, une quarantaine à peu près de parlements qui vont devoir se prononcer sur ce traité. Donc, je ne crois pas qu'on va être en manque d'avis de la part des représentants du peuple. Mais je voudrais tout de même dire que la vraie question sur ce traité transatlantique, c'est non pas, et c'est en cela je crois qu'on a fait une erreur et qu'il y a une erreur de présentation, c'est pas une révolution entre les États-Unis et l'Europe. C'est pas supprimer les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. C'est arriver à des normes occidentale entre les États-Unis et l'Europe qui nous permettent de travailler plus vite et mieux avec les industriels des deux côtés de l'Atlantique. Et moi, je préconise, comme on est bloqué actuellement avec ce traité, je préconise qu'on aborde les choses par une logique de silo, c'est-à-dire qu'on regarde les secteurs industriels sur lesquels nous sommes déjà aujourd'hui assez proches pour pouvoir conclure. Je pense à la pharmacie, je pense aux cosmétiques, je pense éventuellement à l'automobile. Et puis que tous les sujets sur lesquels on sait qu'aujourd'hui on est en très fort désaccord, je pense à la, en particulier à l'agroalimentaire, où là,
nous,
les Américains...
Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir leur marché voilà. Public. C'est que les Américains nous donnent accès, notamment à nos PME, à leur marché public. Et puis, il faut quand même se dire... Alors, vous voulez fonctionner par silo, mais on pourrait créer avec ce TTIP un espace économique de 820 millions de consommateurs parmi les plus riches au monde. Ça représente...
Donc 500 millions d'Européens.
Ça représente 40% du PIB mondial, un accord de libre-échange entre les deux rives de l'Atlantique, et puis un tiers du commerce de la planète.
Charles. On veut créer un mastodonte commercial. Et donc forcément, c'est difficile de passer que par le silo, parce qu'on a chaque catégorie de secteurs qui se sent concerné, qui n'a pas envie d'être le dindon de la farce, in fine. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les négociateurs de la Commission, à mon sens, aujourd'hui, ont ce sens politique, parce qu'ils n'ont aucune envie de faire le meilleur accord du monde d'un point de vue technique, administratif, technocratique, et qu'à la fin, ils se prennent encore une banane par les parlements nationaux ou que ce soit pas soutenu. Donc, ils ont cette conscience politique. Quand vous avez Malmström, la commissaire, qui va au devant de, je sais pas quoi, du Parlement européen, qui va rencontrer des citoyens, qui fait des tables rondes avec qui que ce soit, on va beaucoup plus loin dans la transparence, dans l'échange au niveau des étapes de la négociation que ce qu'on a eu par le passé. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pris des bananes, on a cité tout à l'heure ACTA, on voit qu'il y a des cas, justement, d'accords de libre-échange qui sont aujourd'hui pendant à la cour, parce que ça ne fonctionne pas et que vous avez certains États qui se font un peu tirer l'oreille. Donc, ils ne sont pas dans cette démarche.
Mais est-ce qu'il faudrait changer la méthode de négociation pour qu'il y ait moins de fantasmes, pour qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de gens
dans la rue.
Aussi transparent. Est-ce qu'il faudrait être plus transparent encore?
Mais encore, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire d'aller avec un négociateur aux toilettes pour voir jusqu'où ils vont et s'ils n'ont pas un petit papier où ils ont écrit quelque chose qu'ils n'ont pas divulgué. Sincèrement,
il faut que les documents soient totalement.
J'ai discuté avec des négociateurs. Ils m'ont dit que ce qu'il y avait dans la fameuse chambre noire que vous citez, qu'ils n'avaient pas eu de surprise. Ils ne sont pas tombés sur quelque chose en disant mais ça n'a jamais été discuté.
Ils sont restés assez sincères. Si on parle de l'histoire des pesticides, en gros, la Commission européenne disait ne vous inquiétez pas, on ne va absolument pas changer les normes. Les normes européennes vont rester les mêmes, notamment sur les questions de pesticides. Or, il y a des documents qui sont sortis, comme celui que j'ai en main ici, qui indiquent que, au niveau des pesticides, eh bien, ce sont les standards internationaux Codex qui devraient être transposés à la fois au niveau américain et au niveau européen. Or, on se rend compte qu'ils sont globalement, ces standards de pesticides, supérieurs, Codex, les standards internationaux, aux standards européens.
Ce qui pose problème...
Et ça, c'est le résultat d'une fuite. Voilà, ça, c'est une fuite qui montre ça.
C'est pour ça que quand vous dites que tous les textes sont en ligne et qu'on a une grande transparence, ce n'est pas le cas. Et je voudrais juste aussi rajouter sur ces textes noircis...
Non, je dis qu'on n'a jamais été aussi transparent.
Sur ces textes noircis, on parle d'un grand marché transatlantique, certes, mais on parle aussi des tribunaux d'arbitrage privés. Mm-hmm. Et tout de même une justice parallèle privée à sens unique, où l'argent des contribuables va être dépensé pour rembourser les bénéfices futurs attendus des entreprises. Et c'est pour cela qu'on demande aussi de la transparence, et c'est certainement pour cela que c'est noirci, puisque Philippe Maurice aime beaucoup utiliser cette menace, juste la menace, pour faire changer les politiques de santé publique.
Oui, mais attendez, vous savez très bien que les tribunaux d'arbitrage seuls, ça ne passera jamais. Donc c'est pas parce que c'est dans le texte aujourd'hui que ça va passer, ça ne passera jamais. Vous savez qu'il y a eu une proposition que je trouve intelligente de la part de la Commission européenne, qui est de dire on va proposer une puissance d'appel à ces tribunaux d'arbitrage avec des juges professionnels. C'est ça qu'il faut comprendre.
Avec des fonds
oui, mais ça c'est normal. Mmh. Quand ce sont des juges professionnels, c'est normal qu'ils soient payés avec des fonds
c'est
publics.
C'est différent du coup de l'arbitrage privé.
Et c'est absolument indispensable. Moi je trouve que les ONG ont raison de nous dire qu'il faut plus de transparence, et je pense que nous avons raison de leur dire il ne faut pas avoir un point de vue totalement extrême sur la transparence absolue n'existe pas. Mais vous avez raison de temps en temps nous secouer, de même que nous le faisons, puisque nous demandons aussi à la Commission la transparence. Finalement, nous sommes assez souvent sur le même point. Et vous savez, il y a beaucoup de mes collègues députés européens qui passent leur temps à considérer que nous n'avons pas assez d'informations sur de nombreux sujets, et pas uniquement
Charles,
sur les traités internationaux.
Les tribunaux, c'est un excellent exemple, parce que ça montre que la transparence, justement, a forcé la Commission européenne à prendre une initiative qu'elle aurait peut-être prise un peu plus tard, et à accélérer en fait son processus pour répondre justement à cette exigence et apporter une solution alternative, parce que sinon ça allait planter le TTIP. Donc là, c'est positif, parce que ça les force à répondre et arriver avec des nouvelles propositions, et pas seulement se cacher finalement derrière l'accord global et avoir un peu des loups à la fin du processus.
Vous avez tout à l'heure parlé de la question des marchés publics, parce que c'est une question essentielle. Nous savons aujourd'hui que la position des Américains, c'est de dire nous sommes d'accord pour ouvrir nos marchés publics, mais nous laissons aux États, à chacun des États, la possibilité de ne pas le faire. C'est-à-dire que les États, individuellement, auront la possibilité de ne pas le faire. Nous ne l'accepterons jamais. Donc, si vous voyez dans une chambre noire quelque part, si vous voyez que
il y a la lumière quand même, hein,
oui, qu'il y a la lumière. Mais si vous voyez
quelque part
que pour l'instant nous n'aurions pas mis en avant le fait que nous n'accepterions pas une demi-ouverture des marchés publics, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est piégé. C'est ça que je crois qui est important. C'est que vous ne devez pas utiliser l'exigence de transparence dans le sens de vouloir démontrer que nous sommes piégés. C'est ça l'écart qu'il ne faut pas faire.
Alors, un dernier mot, vous avez le mot de la fin, Laura Vérecque.
Sur les tribunaux d'arbitrage privé, vous nous avez dit que ça ne passera pas. Vous allez signer sur le CETA. Est-ce que vous allez donc approuver le CETA?
CETA, c'est l'accord avec le Canadiens.
Écoutez, je sais que vis-à-vis du Canada, c'est pas ça. Et je sais aussi, parce qu'il faut être honnête jusqu'au bout, que des tribunaux d'arbitrage, il y en a dans quasiment tous les accords entre les différents pays et les différentes, et ça marche dans beaucoup de domaines. Ici on parle du TTIP. Pour le TTIP, je ne le ferai pas, parce que le rapport de force est un rapport de force qui est trop important entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour ce qui est du Canada, c'est un peu différent.
Merci beaucoup Laura Vereque de l'ONG Corporate Europe Observatory d'avoir été avec nous aujourd'hui. Robert Rochefort, vice-président du Modem, et Charles de Marcy. Bientôt une pénurie de Danois à Bruxelles. Tiens, c'est ce dont nous parlera Maïed Labaume dans sa chronique Les coulisses de l'Europe de Politico, juste après le journal. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de toujours être en notre compagnie pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens ici au Parlement européen de Bruxelles. Nous sommes avec Robert Rochefort, vice-président du Modem et membre de la famille ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, en charge du bureau bruxellois de ce think tank. Et nous a rejoint sur le plateau la pétillante Maïed Labaume de Politico. Bonjour.
Bonjour Yann.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
De la pénurie de Danois dans les institutions européennes.
De la pénurie de Danois. C'est assez pointu, pourquoi il y a un problème?
Il y a un problème avec les Danois.
Ah oui? Bon d'accord, bah, vous allez nous raconter ça. Et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Eric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International pour sa revue de presse européenne. On va voyager comme finalement, à lui tout seul, c'est une agence de voyage, cet Eric. On va aller en Allemagne, on va aller en Italie, on va aller en Espagne, on va aller au Royaume-Uni. Voilà, les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne. Demandez le programme de cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Pourtant, le Danemark est plutôt bien représenté à la Commission européenne. Alors là, vous allez me dire, mais non, ce ne sont pas les pays qui sont représentés à la Commission européenne. Ça devient quasiment des eunuques à la fois politiques et en termes de nationalité, une fois qu'on devient commissaire européen. Mais Margrét Vestager, la commissaire en charge de la concurrence, c'est la fameuse politicienne danoise qui aurait inspiré la série Borgen. Alors, dites-nous, pourquoi on risque une pénurie de Danois à Bruxelles?
Il n'y a pas que Vestager, il y a aussi le secrétaire général du Conseil qui est danois, il y a le porte-parole du Conseil qui est danois, il y a 850 Danois à Bruxelles et ils sont souvent à des postes de direction. Le problème aujourd'hui, c'est que, et c'est valable pour d'autres nationalités, c'est qu'il y a beaucoup moins, il y a une pénurie progressive de candidats au concours européen. Et par exemple, l'année dernière, si je me rappelle bien, il n'y avait que deux candidats danois au test final du concours européen. Donc, les autorités danoises ici à Bruxelles sont très préoccupés parce qu'ils se disent bon, ben, le futur va ressembler à quoi? Il y aura peut-être un jour plus du tout de Danois. Alors on sait que le Danemark a une position un peu particulière dans l'Union européenne puisqu'ils sont membres mais ils ont des opt-out sur la justice et la défense. Voilà, des dérogations. Et puis le pays est très petit aussi. Mais il n'empêche que le Danemark a été très influent pendant longtemps et il n'y avait pas que Vestager, il y a eu Rasmussen, directeur de l'OTAN, il y avait une personne que les gens connaissent ici et pas forcément ailleurs, qui est Hennig, qui a été un des rédacteurs d'un projet de constitution européenne. Enfin, ils sont influents, donc ils perdent en influence.
Qu'est-ce que vous en pensez, Charles?
Bah, on avait reçu il n'y a pas très longtemps à l'émission Pierre Sellal qui nous disait justement qu'il était assez
Pierre
content,
Sellal,
fier.
Le représentant permanent de la France auprès de l'Union Européenne, c'était dans le cadre d'une émission sur l'influence de la France à Bruxelles.
Et que la France justement était plutôt bien répartie dans la pyramide et à chaque strate au niveau de la Commission Européenne et que donc il y avait un renouvellement finalement des fonctionnaires qui in fine essayent d'obtenir ces postes à responsabilité. Pour le Danemark et pour des petits pays, en fait il y a eu beaucoup de candidats quand ils sont rentrés dans l'Union Européenne et donc on arrive un peu aussi dans ce processus à avoir des gens qui ont 50 ans, qui ont des postes à responsabilité, mais derrière, ça n'a pas suivi. Et là, il faut qu'il y ait une vision collective du pays, de s'assurer en fait, qu'il puisse y avoir des incitations pour encourager les jeunes Danois.
À votre avis, quelle est la raison? Ensuite, on va interroger Robert Rochefort, mais c'est quoi? C'est que le statut de fonctionnaire européen n'est plus aussi intéressant qu'avant? C'est un désintérêt pour la chose européenne? C'est parce qu'ils se disent que ce n'est pas un métier d'avenir, parce que peut-être que dans 10 ans, l'Union européenne n'existe plus?
Parce que le concours est difficile. Quand vous avez 50 000 candidats et que vous n'avez que 300 qui sont pris, bah, évidemment, c'est une grande sélectivité, donc ça joue aussi. Alors que quand vous êtes un pays qui vient de rentrer dans l'Union européenne, bah vous avez des postes qui sont ouverts, alors pas par nationalité, mais par la langue. Donc ça aide évidemment, parce qu'en Danois, vous n'avez pas beaucoup de concurrents espagnols qui vont venir sur vos terres. Donc il y a un ensemble de facteurs comme ça qui font que ça peut paraître pas forcément moins attractif, mais beaucoup, beaucoup plus difficile. Et à ce titre-là, si vous êtes un grand pays, bah vous avez plus de candidats.
Robert Rochefort, qu'est-ce que ça vous inspire, cette pénurie de Danois?
D'abord, je voudrais dire que le Danemark, c'est quand même un pays qui est très utile pour l'Europe. Vous avez fait référence aux grands Danois qui ont servi l'Europe. Et moi, je veux dire que Madame Vestager... J'osais pas le faire. J'y pensais depuis le début, mais vous voyez, j'ai pas osé le faire. Mais Madame Vestager est une grande commissaire européenne à la concurrence. Je vous dis, moi, j'ai le droit de le dire, elle est bien meilleure que Monsieur Almunia, qui était son prédécesseur. Et en particulier dans le combat que nous avons, et
qui lui était socialiste,
et enfin, en tout cas, dans le combat que nous avons par rapport à Google, Madame Vestager est courageuse. Et moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui en ont eu marre d'avoir été écrasés par l'absence de concurrence réelle que permet Google. Et donc, je soutiens Madame Vestager à cet égard. Après, la question du recrutement des jeunes Danois, là, j'avoue que je ne savais pas. Il y a une chose, malgré tout, qu'il faut bien comprendre dans les gens qui sont embauchés à Bruxelles, dans les institutions européennes, c'est qu'on est passé d'une époque qui était une époque de pionniers et de militants européens à une époque de techniciens. Et la sévérité des concours renforce la logique de sélection de techniciens. Et comme vous le dites, quand un pays rentre, on a des militants européens qui arrivent. Et puis petit à petit, maintenant, on a des techniciens. Et je pense que à la longue, avoir une sélection sur des critères très universitaires et très techniciens est quelque chose qui est préjudiciable à l'idée et au militantisme européen qu'on aurait besoin d'avoir. Et il y a trop de technocrates qui sont des grands techniciens, je parle dans les services, dans tout cela, et il faut qu'on retrouve l'âme d'avoir envie de construire l'Europe.
Et souvent, on pourrait prendre des professionnels issus du secteur privé dans les différents pays, mais qui n'ont juste pas le temps de préparer ce type de concours et qui donc ne le font pas. C'est ce que vous sous-entendiez tout à l'heure,
oui,
Charles.
Oui, en partie. Juste pour illustrer le point que vous venez de soulever, aujourd'hui, pour le concours, on vous pose plus d'une seule question sur l'Union européenne en tant que telle. Vous avez des compétences sur le droit européen, sur des choses qui sont vraiment spécifiques, techniques, mais sur l'histoire européenne, sur le traité de Rome, sur ce que vous voulez. Si ce n'est pas un article de concurrence et donc quelque chose de spécifique, on vous pose pas la question.
C'est dramatique.
Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, dans le concours, vous aviez encore un peu au système français du concours, un format de rédaction, voilà, ou en tout cas des réponses écrites. Aujourd'hui, vous cochez des cases. Et donc, c'est notre approche, en fait, du concours.
Maya. Et après, il y a un trait de caractère danois dont on m'a parlé quand j'ai fait le reportage, qui était vraiment que les Danois ne sont pas du tout attachés à la sécurité de l'emploi. Donc, de plus en plus de générations, ils veulent un travail flexible, ils veulent changer de boulot dans le temps. Donc voilà, c'est aussi un indicatif intéressant.
Bon, la flexi-sécurité danoise qui porte atteinte, visiblement, à l'influence danoise à Bruxelles. Tout de suite, merci Maya, tout de suite la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Mais qui est là ? Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yannick Robin.
Comment allez-vous ?
Oui, très bien.
Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International. Allez, faites-nous voyager. On commence par l'Allemagne. Alors aujourd'hui, on a parlé en début d'émission du TTIP et surtout des questions de transparence, parce que, eh bien, moins on est transparent, plus, eh bien, il y a des fantasmes du côté de l'opinion publique. Eh bien, selon les Allemands, les craintes étaient fondées.
Oui, c'est un éditorialiste allemand de la Süddeutsche Zeitung qui revient là-dessus. Et c'est une plume du journal de Munich qui fait un article assez dur en fond sur ces négociations, parce que vous savez, il y a eu des révélations faites par Greenpeace, et tout d'un coup, eh bien, on a pu voir une partie des documents et qui ont révélé finalement que ce qu'il y avait à l'intérieur des négociations. Et cet éditorialiste, eh bien, il appelle à revoir la méthode des discussions et il veut replacer le citoyen au cours des débats. Alors, selon Heribert Prantl, voilà ce qu'il explique. Ce que l'on sait de ce traité est inversement proportionnel à son importance, explique-t-il. Et il nous dit les espoirs et les craintes qu'ils font naître sont aussi grands que le secret qui entoure les négociations. Tout est justement autour de cette idée de transparence, mais aussi cette obsession du secret. Et il conclut son article en expliquant cette obsession du secret met en péril la santé de l'accord. Donc c'est vraiment un appel dans un journal allemand à revoir très vite la méthode.
Voilà, c'est ce qu'on disait aussi dans la première partie de l'émission, Robert Rochefort. Ce qu'il faut, c'est juste comprendre qu'il y a des inquiétudes.
Et non, mais qu'on fait plus nous sommes inquiets, pour tous les domaines. Regardez, aujourd'hui, y compris sur le glyphosate qu'on met pour désherber, etc. C'est un sujet important cette semaine à Bruxelles. Plus on est inquiet, plus on a le sentiment qu'il y a une théorie du complot.
Et plus pour démonter la théorie du complot, on considère que la transparence va régler le problème. Je vous dis simplement qu'il faut de la transparence, mais que c'est pas ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est de savoir où on veut aller et pourquoi faire. Et quand on ne sait pas très bien où on veut aller, aujourd'hui sur le TTIP, on ne sait plus très bien où on veut aller, eh bien effectivement, on se replie sur cette question d'un désir absolu de transparence et sur cette théorie du complot, qui est, à mon avis, surtout sur le TTIP, ce qu'il faut, et là, on va rejoindre la question vraiment européenne. Moi, ce qui me choque le plus sur le TTIP, je vais vous le dire, c'est l'inégalité du rapport de négociation entre les deux parties. Parce que d'un côté, vous avez un État fédéral, avec un président des États-Unis qui a dit, moi, je veux un TTIP avant la fin de mon mandat. Il ne l'aura pas, mais au moins, il y avait un message clair. Et de l'autre, eh bien, vous avez ces 28 pays avec des Danois, des Allemands, on vient d'entendre des Allemands.
Oui, mais les Danois sont
qui pensent pas forcément
de moins en moins influents.
Et qui n'ont pas du coup. Et vous savez ce que M. Juncker veut vraiment sur le TTIP, vous ? Et vous savez ce que M. Donald Tusk veut vraiment sur le TTIP ?
Président du Conseil européen.
Lisez les textes qu'ils font, vous verrez que c'est tout est dans tout et réciproquement.
Charles.
En tout cas, on sait qui veut le TTIP, c'est les Allemands. Et donc Merkel, quand elle a reçu le président Obama, tous les deux ont rappelé leur volonté de pouvoir avoir une premier type d'accord d'ici la fin 2016, qui est plus qu'optimiste, et je vous rejoins, ça me paraît très compliqué.
J'aime beaucoup Mme Merkel.
Mais son optimisme est démesuré.
Européenne.
Bon, non, voilà.
Quand on parle de l'Allemagne.
Voilà. Bien sûr.
Clairement, Robert Rochefort, vice-président du Modem, qui regrette finalement le manque de vision et de projet réel de Bruxelles sur les questions du TTIP. Et ben, visiblement, en Italie, à Rome, il y a un maire sans projet.
Il y a une campagne électorale sans projet. Et c'est vrai que là, c'est le journal, l'hebdomadaire Internationale qui pousse un coup de gueule, vraiment, parce qu'on a quatre candidats pour une élection municipale qui va avoir lieu là dans quelques semaines, ça sera tout début juin, le 5 juin pour le premier tour, et les quatre candidats, cette campagne, elle se montre, dit le journaliste, confuse, bricolée tant bien que mal, incolore. Alors c'est simple, dans les quatre candidats, chacun parle de Rome en mettant la ville à toutes les sauces, donc il cite les différents slogans, c'est assez intéressant, tellement c'est creux. Rome retourne à Rome, Rome c'est elle, Rome c'est toi, moi j'aime Rome et toi. Mais au fond, il nous explique que cette bataille des idées est réduite à une guéguerre de tweets et à des accusations infantiles. Ce qui manque cruellement, explique le journaliste, c'est un réel diagnostic, un diagnostic soigneux de la ville. Et vous savez, Rome est passée par une grosse crise. Il y a eu ce scandale qui a fait d'ailleurs partir le maire à l'automne dernier, le scandale de Mafia Capitale. Il y a un problème de réduction de la dette, 13 milliards d'euros. Et là-dessus, eh bien, les quatre candidats ne s'expriment pas. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on risque d'assister au deuxième tour à un duel de femmes. D'un côté, celle qui est aujourd'hui quand même la favorite, c'est Virginia Raggi, et qui est du mouvement des 5 étoiles. Et puis en face, eh bien, une ancienne ministre de l'extrême droite, Giorgia Meloni. Voilà ce qu'on peut s'attendre dans les pronostics pour le deuxième tour.
Voilà. Moi, je m'attendais, pas au pronostic, mais je m'attendais à tous les chemins mènent à Rome, parmi les slogans que vous alliez citer, les slogans faciles, mais il n'est pas venu. Charles.
C'est un peu le problème aujourd'hui des campagnes électorales qui s'appuient sur Twitter, non plus comme un moyen, mais comme une fin en soi. Vous calculez combien vous êtes followers, vous calculez combien de fois vous êtes retweeté, et là, il faut le faire en 140 caractères. Et faire un programme électoral en 140 caractères, c'est strictement impossible.
Maya de la Baume.
Mais je demandais aussi, par rapport à cet article, à un Italien, si Rome, s'il y a eu un maire de Rome qui a bien gouverné, qui a bien géré cette ville, en règle générale, personne ne cite un nom.
Robert,
il y a des maires de Rome, qui n'ont pas fait des longs séjours. Moi, je crois néanmoins que ça montre la crise de la politique, et souvent, on dit les mairies sont à l'abri de la crise des politiques. Je crois que là, ça montre que c'est pas tout à fait le cas partout et tout le temps.
Bon, allez, parlons de notre futur avec les enfants Erasmus, Eric, la première génération 100% européenne.
Alors ça, c'est plutôt sympa et c'est une ode à l'amour puisque c'est El Periódico de Catalunya, donc le journal de Barcelone, qui nous explique que Erasmus fait des petits, mais alors au sens propre, hein, puisque dans les années 2000, un étudiant sur trois a trouvé l'âme sœur grâce au programme d'échange interuniversitaire. Et ces couples ont fait, tenez-vous bien, Yann Anthony, 1 million d'enfants qui sont les premiers à incarner l'idéal d'intégration européen. Vous voyez, c'est quand même une belle histoire et c'est aussi une façon de construire l'Europe.
Bon, je peux lâcher maintenant, je me tenais 1 million d'enfants quand même, de couples européens. Vous avez fait Erasmus,
oui,
Charles,
en Espagne,
Maya. En Espagne en plus,
oui.
Vous n'avez pas fait d'enfants avec un Espagnol.
Non, encore pas que je sache.
Pas que vous sachiez, bon, pas très bien.
Vous devriez le savoir.
Non, mais c'est vrai que c'est une réussite. Erasmus, direction le Royaume-Uni, on va beaucoup parler tout au long du mois de juin, évidemment, jusqu'au 23 juin, date du référendum sur le Brexit, et puis après, pour analyser les conséquences de ce vote, plus que jamais incertain. On parle du streaming avec vous pour l'instant, Eric.
On parle d'autre chose, on regarde les écrans, et c'est, vous savez, il y a une offensive en ce moment très forte de Netflix dans beaucoup de pays européens, et en particulier au Royaume-Uni, puisque Netflix est en train de préparer une série autour de la reine d'Elisabeth, une sorte de grande production qui va sortir au mois de novembre, 130 millions d'euros investis dans cette série, ça s'appellera The Crown, et bien face à ça, c'est la BBC qui a décidé de réagir, c'est le Daily Telegraph qui nous raconte ça. La BBC prépare la riposte Britflix, un projet dont le contenu donc a fuité, et ce projet consiste en fait à un nouveau service payant de vidéo à la demande qui sera diffusé par la BBC, et c'est intéressant, en collaboration avec le rival privé de ITV, hein, le rival privé de la BBC. Et donc on y verra à la fois des archives, mais aussi des productions. C'est la riposte à l'offensive américaine.
Et Frankflix, ça arrive quand, Frankflix? Alors, déjà, les moteurs de recherche, on devait avoir aussi un moteur de recherche français qui devait arriver, on l'a jamais vraiment vu. Maintenant, Netflix qui arrive, pourquoi est-ce que les Français, de manière générale, les Européens, ils ne contre-attaquent pas Robert Rochefort?
Parce qu'on va pas assez vite, et parce qu'il n'y a pas suffisamment, ici à Bruxelles, une pensée industrielle. Et la culture, c'est aussi une industrie, au bon sens du terme. Et je regrette beaucoup, par exemple, prenez le plan Juncker, qui est le plan d'investissement dont on a beaucoup parlé, je regrette beaucoup que on dise, on soutient des projets comme ça, de façon un peu dispersée, en fonction de ce que les pays demandent et on mettent en avant. On saupoudre. Là, on est devant le numérique, parce que finalement, Netflix, c'est un des changements de l'ère numérique, mais il y a le numérique, il y a les nanotechnologies, il y a les biotechnologies, et sur toutes ces choses-là, je trouve que là où les Américains ont su fédérer leurs moyens et avoir un État qui les défendait, nous en Europe, eh bien, on est encore dispersés, et comme toutes ces technologies-là, c'est des compétitions de vitesse, à chaque fois qu'on n'est pas dans le premier train, mais qu'on est dans le troisième ou le quatrième train, eh bien, on prend du retard, et on a du mal à rattraper ce retard.
Et sachant qu'on aurait pu être en avance Spotify, au départ européen, finalement, ils sont allés monter leur business à New York, Skype, au départ européen, et ils se sont vendus à des Américains. Charles,
Sur la culture, le marché pertinent aussi est plus petit, parce que vous avez 24 langues officielles européennes, et donc avant de pouvoir atteindre une certaine taille au niveau du marché, ça demande quand même une certaine capacité. Alors les Anglais prouvent le contraire, puisque logiquement ils pourraient s'appuyer sur le réseau américain et pas avoir besoin d'en créer un autre, mais je crois que sur cette question culturelle, on pâtit réellement en fait de cette taille critique.
Et puis avant on avait le problème des brevets aussi, maintenant qui a priori est...
Les Espagnols continuent à
Maya.
Non, moi j'attends le Britflix là, c'est ça?
Vous attendez le Britflix?
Ouais. Netflix en Belgique, moyen.
Oui, ça marche pas très bien.
Non.
D'accord, merci pour cette analyse poussée. Maya de la Baume de Politico. Politico, finalement, non, on pourrait se retrouver avec un Netflix. Oui, c'est ça, Netflix Politico, c'est une enseigne américaine. Avec
on va
des
lancer
Allemands.
D'ailleurs notre prochain Netflix.
Eh bien, ça pourrait être une bonne idée. Merci Maya de la Baume de Politico. Merci Eric Scholl de Courrier International pour votre revue de presse. Merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Et merci Robert Rochefort, vice-président du Modem, d'avoir été avec nous pour parler des questions de transparence autour des négociations sur des accords internationaux et puis ensuite sur ces coulisses de Bruxelles et sur cette revue de presse. Merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis en son et en image cette émission. Merci à Alexandre Rougier qui l'a préparée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Toujours le même jour, toujours la même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.